d'Arsenal et de Manchester City. En quart de finale, le Bayern Munich et le Real Madrid se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi ce soir à 21h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Des adultes sont obèses. Mais l'obésité, c'est quoi? Qui est concerné? Eh bien, pour le savoir, il faut calculer son IMC, c'est-à-dire son indice de masse corporelle. En fait, rien n'est plus facile, à condition d'avoir une calculette. Car il faut diviser son poids en kilos par sa taille en mètres élevée au carré. Si le résultat est supérieur ou égal à 30, alors attention, vous êtes considéré comme obèse. Et à ce stade, c'est votre santé qui est en danger. Une personne obèse a en effet beaucoup plus de chances de faire une crise cardiaque, un un accident vasculaire cérébral ou d'avoir du diabète qu'une personne de poids normal. Il faut donc réagir déjà pour arrêter de prendre des kilos et ensuite pour envisager d'en perdre. La meilleure solution, c'est de manger moins gras et de faire un peu d'exercice physique. Déjà, marcher une demi-heure par jour tous les jours permet de stabiliser son poids. Après, selon vos envies, n'hésitez pas à aller à la piscine, faire du vélo, de la gymnastique. Toutes les activités sont bonnes pour la santé comme pour le moral. Enfin, pour vous aider à bien démarrer cette cure d'amaigrissement, une consultation avec un médecin spécialisé s'impose. Car chaque cas est particulier et il est essentiel de voir ce qui ne va pas. Est-ce surtout un problème de sédentarité, un déséquilibre alimentaire, une baisse de morale, des prises de médicaments qui vous font grossir? Le médecin vous interrogera en détail, vous fera réaliser des analyses de sang ou encore vous demandera de faire une enquête alimentaire. Il s'agit de noter sur un carnet, chaque jour, tous les aliments que vous consommez pendant et hors des repas. C'est un peu scolaire, d'accord, mais c'est très utile. En notant tout, vous pourrez repérer toutes vos erreurs alimentaires et les corriger. Le médecin est aussi là pour vous fixer un objectif de poids à perdre, 5 ou 10 kilos par exemple, et il vous conseillera un régime. N'oubliez pas qu'il est très difficile de maigrir seul et que vous devrez vous rendre tous les mois chez votre médecin pour augmenter vos chances de réussir. Si jamais un régime seul ne marche pas, d'autres solutions sont envisageables. Votre médecin pourra vous prescrire des médicaments qui empêchent le corps d'absorber les graisses ou qui coupent la faim. En dernier recours, et seulement en cas d'obésité très importante, il existe une opération chirurgicale. Pour cela, on place un ballon dans l'estomac ou encore on le ceinture avec un anneau. Barbare, mais efficace. Avec 2 cuillerées d'aliments, la personne a vite la sensation d'avoir le ventre plein. Heureusement, il est rare d'en arriver à ces solutions radicales. Et obèse ou pas, la solution miracle pour perdre quelques kilos, nous la connaissons tous. Évitez de grignoter entre les repas, manger équilibré et se bouger.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé. 100% santé.
Et moi je veux juste te regarder faire. les Français ont toujours manifesté une certaine curiosité pour les sondages ou les études qui reflètent leur comportement sexuel. Et parmi les sujets interrogés, on retrouve de plus en plus de seniors. Certaines études effectuées en France, comme celle de l'ASCF, démontrent justement que les personnes dites du troisième âge sont de plus en plus satisfaites de leur vie sexuelle. Avant tout, il faut bien s'entendre sur les termes. Oui, l'appellation senior regroupe l'ensemble de personnes et non, cela ne veut pas dire qu'à 50 ans, on est vieux. D'ailleurs, la tendance de la fréquence des rapports sexuels chez les seniors, comme celle de l'espérance de vie, est à la hausse. Alors qu'en 1972, 36% des hommes seniors interrogés déclaraient ne pas avoir eu de rapport sexuel l'année précédant l'étude, récemment, ils ont été à peine 8% entre 50 et 54 ans dans le même cas. Même si la manière de traiter les chiffres a peu évolué, notamment avec la création de sous-catégories d'âge, la tendance semble bien se confirmer. Assez nettement, pour qu'on puisse le dire, les seniors sont plus à l'aise avec leur sexualité qu'il y a 40 ans. Les femmes sont elles aussi bien entendu concernées par la chose, même si elles enregistrent en moyenne des résultats moins élevés que ceux des hommes. Pour la tranche 65-69 ans, quasiment 40% d'entre elles n'ont pas eu de relation sexuelle depuis un an. Cela veut bien dire qu'au moins un senior sur deux conserve une sexualité régulière après 65 ans. Et apparemment, plus le temps passe, plus ils ont de chances d'être plus nombreux dans ce cas.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes.
6 minutes.
Un point sur votre actualité santé. Radio Public Santé, la radio qui vous veut du bien.
Summer, the beauty in love.
qui emboîte le pas dans quelques instants au programme de la radio qui vous fait du bien.
Et nous voici aujourd'hui avec Julie. Attention, Julie prend un verre. Julie pile des glaçons, elle presse un citron, une orange même. Et la voici proche du but, Julie qui s'approche de son amie Emma. Elle lui tend le verre, Emma qui grâce à Julie pourra enfin boire autre chose que de l'eau. Et la joie, mesdames et messieurs, la joie dans les yeux d'Emma, la joie, mesdames et messieurs.
Pendant la grossesse, soyons tous solidaires et supporters du zéro alcool. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Take a photo, eternalize this moment for the days when I don't believe. When our love gets stolen, cause there's no exception, and I know time will take you far from me. Let this night invade my lungs, you're all I wanna breathe.
valgus. Le terme médical n'est pas facile à retenir, mais tout le monde connaît le gros oignon qui déforme de nombreux avant-pieds avec l'âge. Le gros orteil dévie vers l'intérieur et sa base devient proéminente, facilement agressée par la chaussure. Même si les hommes et les enfants peuvent être touchés, les femmes sont les victimes les plus fréquentes. L'oignon débute généralement entre 40 et 50 ans. On ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais un certain nombre de facteurs sont identifiés. Tout d'abord, le facteur génétique. Un avant-pied large ou un long premier orteil, comme le pied égyptien. Ensuite, le port de certains types de chaussures, talons hauts, chaussures à bout pointu qui compriment l'avant-pied. Et enfin, l'âge, la ménopause entraînant un relâchement des structures fibreuses, favorisant l'élargissement de l'avant-pied. Pour soulager et ralentir l'évolution de l'oignon, les conseils sont simples. Portez des chaussures à bout large et rond, en alternant petits talons et chaussures plates. Essayez les soins de pédicure, pratiquez des exercices d'étirement et des massages. Portez éventuellement des prothèses de posture, luttant contre le valgus et la griffe, ou des semelles améliorant les appuis. L'intervention chirurgicale est la solution ultime, réputée un moment désagréable à passer, mais efficace. Elle raccourcit et redresse le gros orteil. Sa base s'enraidit, ce qui est le facteur essentiel du résultat. Mais comme l'orteil est plus court, ce n'est pas gênant pour la marche. Elle dure généralement moins d'une heure et aujourd'hui, les suites opératoires sont peu douloureuses. Quant à la gêne, elle dure environ 3 mois. Des séances de kiné peuvent être associées pour aider à retrouver la mobilité et faciliter la récupération.
Réécoutez cette chronique et échangez vos avis sur internet www.publicsanté.com.
Same voice. consommateurs ont de plus en plus d'outils à leur disposition pour bien choisir quoi consommer dans les rayons des supermarchés. À son tour, l'UFC Que Choisir vient de lancer son application pour mieux sélectionner les produits alimentaires, mais aussi les cosmétiques ou les produits ménagers disponibles dans nos rayons. Cette application pour smartphone gratuite fonctionne comme d'autres du même titre en scannant les articles. Le but est de vous informer sur la présence d'éventuels polluants, additifs et substances allergisantes. Cette application se nomme Quel produit ? Concrètement, après avoir scanné le code barre de l'application, elle vous indique une note entre 5 niveaux qui va du vert au rouge. Et des produits alternatifs s'affichent pour identifier des solutions mieux notées quand les produits scannés sont listés comme mauvais.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes.
6 minutes.
Un point sur votre actualité santé. Radio Public Santé.
La radio.
La radio qui vous veut du bien.
Oh,
dans quelques instants, nous parlerons du temps de travail et des risques qui y sont liés pour notre santé. C'est à suivre à l'antenne de la radio qui veut du bien.
Un euro. Pour vaincre l'autisme, vous n'allez pas donner qu'un euro. Bah non, c'est ridicule. Ça sert à rien, un euro. Comme si on allait financer la recherche contre l'autisme avec un euro. Mais c'est le grand don pour l'autisme. Avec votre euro, plus celui de votre voisin, plus celui d'un autre, on va la financer, la recherche pour l'autisme.
Ce sont les petits gestes qui font le grand don. Faites un geste sur vaincrelautisme.org.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île. Elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. J'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile. Et puis qu'on vit à vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
L'Organisation mondiale de la santé a fait la synthèse de plusieurs études sur le travail et conclut que travailler plus de 55 heures par semaine augmente les risques de décès précoce causés par les accidents vasculaires cérébraux et les maladies du cœur. Concrètement, travailler 55 heures ou au-delà est corrélé à une hausse de 35% du risque d'AVC et de 17% du risque de décéder d'une cardiopathie par rapport à des horaires de 35 à 40 heures seulement. Les cardiopathies ont par ailleurs augmenté de 42% entre 2000 et 2016. La plupart des décès concernent des individus âgés de 60 à 79 ans qui ont travaillé pendant 55 heures ou plus quand ils avaient entre 45 et 74 ans. À l'appui de ces données, l'OMS alerte les gouvernements, les employeurs et tous les travailleurs sur les dangers pour la santé du travail prolongé qui devient le premier facteur de risque de maladies professionnelles. Sans surprise, la morbidité est plus importante importante chez les personnes des régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est, où davantage de travailleurs sont susceptibles d'être obligés de travailler sur de longues journées. Cependant, le phénomène tend aussi à se généraliser dans le monde occidental, une tendance qui s'est accentuée rapidement avec la crise sanitaire et les confinements. Davantage de télétravail qui brouille la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Une charge de travail répartie sur une plage horaire plus longue pour les employés qui sont restés dans les entreprises où des collaborateurs ont été licenciés. Davantage d'insécurité qui pousse celles et ceux qui ont pu conserver leur emploi à plus de compétitivité. À travers le monde, le nombre de personnes qui travaillent de longues heures est en augmentation et cette situation concerne aujourd'hui 9% de la population totale. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, invite donc à rechercher des limites protectrices pour la santé des travailleurs.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé, Radio Public Santé, et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction. www.publicsante.com.
Out of hope, one more bad break.
Public Santé, votre chronique sexologie. Raphaël Delvolvé.
Le sujet peut paraître un peu indiscret et pourtant il pourrait bien en rassurer plus d'une. Les femmes américaines sont bien plus infidèles qu'il y a 20 ans. C'est en tout cas ce que révèle cette étude réalisée par la très sérieuse organisation de la recherche sociale affiliée à la prestigieuse université de Chicago. Il y a une vingtaine d'années, seules 10% des femmes américaines avouaient avoir déjà trompé leur conjoint. Elles seraient aujourd'hui 14,7%. Avec l'augmentation de la population et donc une augmentation des aventures extra-conjugales côté féminin, cela représenterait une augmentation de près de 40%. Les spécialistes reconnaissent que certains facteurs socio-professionnels sont en partie responsables de cette tendance. De nos jours, les femmes sont plus actives qu'il y a 20 ans, ayant pour beaucoup d'entre elles une situation professionnelle et économique indépendante de leur mari. Cela leur permet notamment de moins craindre le divorce. Difficile aussi de ne pas s'arrêter sur l'explosion des sites de rencontres durant les deux dernières décennies, accélérant l'obtention des rendez-vous. Les réseaux sociaux, apparus en 2004, ont eux aussi mis leur pierre à l'édifice. Mais les champions en lice de l'infidélité restent encore les hommes, et selon les dernières études, il serait plus d'un sur cinq à avoir déjà eu une relation extra-conjugale.
Vous écoutez la radio qui vous veut du bien, et si bien entendre justement est vital, savez-vous que certains d'entre nous entendent d'autres bruits, les acouphènes, et il y a des solutions côté traitement, et c'est à suivre dans quelques instants. Assez de devoir attendre pour écouter un point complet sur l'information ? Écoutez Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes. Autour de l'actualité nationale et internationale, nos 45 journalistes experts vous parlent 24 heures sur 24 de l'actualité sportive, high-tech, technologie, immobilier, juridique. Replay News, la radio de l'info, toutes les 5 minutes, c'est sur votre smartphone ou tablette avec l'appli Replay News et sur replaynews.net. Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio
qui vous veut du bien.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up.
Français connaissent ces bruits parasites et extrêmement oppressants que sont les acouphènes, des perceptions auditives non corrélées à un stimulus acoustique externe qui peuvent se ressentir dans une ou les deux oreilles. À ce jour, il n'existe pas ou peu de traitements pour soigner les patients qui souffrent de cette maladie invisible. Plusieurs techniques de stimulation nerveuse ou neuromodulation ont été étudiées ces dernières années pour soulager les symptômes. Et ainsi, une récente étude clinique vient d'évaluer l'efficacité d'un nouveau traitement. Concrètement, un dispositif non-invasif composé d'un casque à mettre sur les oreilles et d'électrodes placées sur la langue. Le principe consiste à faire entendre au patient des sons tout en exerçant une stimulation de la langue qui oblige ainsi le cerveau à détourner son attention des oreilles. Cet essai scientifique mené en Irlande et en Allemagne auprès de 326 adultes donne de bons résultats puisque 66,5% des patients ont indiqué avoir vu diminuer leurs symptômes d'acouphènes jusqu'à un an après l'expérience. Concrètement, les participants de l'étude ont dû utiliser le dispositif pendant 12 semaines au rythme de 1 heure par jour. La société conceptrice est en train de demander actuellement son autorisation de mise sur marché auprès de l'administration américaine, mais déjà un autre essai est en cours pour connaître les bénéfices à long terme de cette stimulation conjointe de l'oreille et de la langue. Dans les pays industrialisés, environ 10% de la population est touchée par les acouphènes et ce chiffre est en augmentation régulière. Les conséquences sont souvent des difficultés à dormir, des troubles de la concentration, mais les interactions sociales peuvent également être très perturbées. Enfin, les personnes souffrant d'acouphènes ressentent la plupart du temps de la détresse psychologique pouvant entraîner des troubles anxieux ou une dépression sévère.
C'était votre chronique découverte. Réécoutez cette chronique sur internet www.publicsanté.com.
Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the Austin Valentine. To my sweet lover and maid, slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell.
Baby,
oh.
Wish me love.
grâce.
Opérer un sein, que les raisons soient esthétiques ou thérapeutiques, va bien au-delà d'une simple opération chirurgicale. Cela touche à l'intime et au regard porté par l'autre. Or, les patientes peuvent présenter, dans les premières semaines ou les premiers mois, des cicatrices de couleur rosée-violacée, plus ou moins foncées. Celles-ci ont un caractère inflammatoire et sont essentiellement liées à la présence de micro-vaisseaux. Pour atténuer le plus possible ces cicatrices et diminuer le risque ultérieur de cicatrices blanches disgracieuses, elles doivent être prises en charge dans les premières semaines ou les premiers mois après l'opération. C'est là qu'intervient la médecine esthétique. Différents recours sont possibles pour les patientes. Après une opération du sein, on peut débuter par une photothérapie, LED, sur plusieurs semaines à raison de 2 séances par semaine, couplée à l'application quotidienne d'un gel siliconé transparent. Cette thérapie peut être commencée quelques semaines après l'acte chirurgical. Elle a l'avantage d'être totalement indolore et de se pratiquer tout au long de l'année et sur tout type de peau. Et si la cicatrice est liée à un problème vasculaire plus marqué, elle peut réclamer un traitement spécifique complémentaire. Il s'agit préférentiellement du laser vasculaire à colorant pulsé. Il faut effectuer 1 à 3 séances, espacées chacune de 3 mois. Cette technique laser ne requiert pas de crème anesthésiante car les phénomènes douloureux sont limités, mais elle demande en revanche quelques précautions. Il faut notamment attendre au moins 2 mois après l'opération pour intervenir avec ce laser. Par ailleurs, il ne s'utilise que chez les peaux claires ou au maximum en cas de peau mate, et une séance laser ne doit jamais être pratiquée durant l'été. Pour conclure sur ces techniques de correction des cicatrices après une opération du sein, les femmes se doivent d'être patientes pour obtenir les résultats définitifs et, soyons réalistes, quelle que soit la technique utilisée, la cicatrice sera atténuée sans jamais totalement disparaître. Néanmoins, la médecine esthétique actuelle permet d'obtenir de bons résultats sur les cicatrices mammaires post-opératoires. À noter enfin que dans le cas de chirurgie mammaire thérapeutique, la prise en charge des cicatrices par le médecin esthétique se fera en accord et en collaboration avec le médecin responsable du traitement de la pathologie qui a nécessité l'opération.
Radio Public Santé, c'est aussi votre radio thématique parmi tout un bouquet qui vous ressemble. Public Santé Famille, Public Santé Sexo, Public Santé Loisirs et Sports, Public Santé Nutri-Conso, Public Santé Génération Senior et Public Santé Détente. Radio Public Santé, disponible sur votre webphone, radio Wi-Fi, votre box ADSL et sur publicsanté.com.
Words in my head.
sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de Ripley News. Claude Varan, bonjour Claude.
Bonjour à tous. Figure du canoë-kayak français Jean-Yves Prigent, placé sous enquête judiciaire pour suspicion d'agression sexuelle sur mineurs. Les faits concernant l'ancien champion du monde de slalom par équipe en 1977 se seraient déroulés au mois de mars. Deux jeunes garçons, dont au moins un est mineur, de plus de 15 ans, signalés avoir été agressés sexuellement par l'encadrant, âgé de 70 ans. Gérard Depardieu va être jugé quant à lui en octobre pour agression sexuelle. Il sera jugé pour des agressions sexuelles susceptibles d'avoir été commises en septembre 2021 au préjudice de deux victimes sur le tournage du film Les Volets Verts, précise le parquet de Paris. Placé en garde à vue hier matin, l'acteur a été auditionné tout au long de la journée dans les locaux de la police judiciaire parisienne pour des faits datant de 2014 et de 2021. Un encadrant du service national universel de Vesoul, âgé de 19 ans, a été interpellé et placé en garde à vue après les dépositions de 7 adolescents jeudi dernier. Il l'accuse d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Une enquête a été ouverte par le parquet de Vesoul et l'homme a été mis à pied. Trois jeunes ont finalement porté plainte. Le mineur mis en examen pour le meurtre de Mathis à Châteauroux a été placé hier en détention, annonce le parquet. Le suspect et sa mère avaient été placés en garde à vue un petit peu plus tôt dans la journée. Arnaud Lagardère mis en examen pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de votes, abus de biens sociaux. Le PDG du groupe Lagardère est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plusieurs années. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de renforcer la sécurité près des églises lors des fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte, invoquant le niveau très élevé de la menace terroriste. Le très puissant télescope James Webb a dévoilé les images les plus détaillées jamais prises de